mieux pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Et vous êtes sur Radio Campus 106.6 et comme toutes les semaines de 18h à 19h, nous allons parcourir ensemble l'actualité ludique et geek. Et aujourd'hui, nous allons voyager puisque nous sommes trois pour animer cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
Et de Dominique.
Salut à tous.
Alors, je parle de voyage. Effectivement, hein, la majorité des Français, 80% des Français ont voyagé pendant les vacances en France.
Ils ont fait quoi les 20 autres? Soit ils n'ont pas bougé, soit ils étaient déjà coincés à l'étranger, c'est ça?
Ou alors ils travaillaient à recevoir les 90% de retraite.
C'est ça. Et je pense qu'autour de la table, on a plus ou moins tous voyagé également.
En France,
dans l'Hexagone.
En France.
Voilà. Et c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous regardez un peu les JT ou un peu les pubs, il y a beaucoup... beaucoup d'annonces pour justement découvrir des paysages français qu'on ne voit pas d'habitude.
Exactement.
Pour relancer un peu le tourisme.
C'est une très bonne occasion de découvrir les trésors qu'on a à notre porte.
Alors on s'est dit, bah pourquoi pas également nous se lancer dans l'aventure.
On peut voyager de façon, on va dire virtuelle, sans bouger, sans enlever son cul de la chaise pratiquement. En écoutant Radio Campus, on va voyager ce soir.
Mais avant de voyager, il est important d'attaquer l'agenda.
Eh oui. Parce que là, la rentrée approche et l'agenda commence à se remplir petit à petit de vrais événements. Oui, il y a des vrais événements, il y a des festivals dont on a déjà parlé qui sont en virtuel.
Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, oui. J'en profite pour parler de choses qui ne sont même pas dans le sommaire qu'on a préparé.
Ah, et voilà, ça commence.
La braderie de Lille aura bien lieu, mais cette fois-ci qu'avec des commerçants, c'est ça?
C'est pas déjà le cas?
C'est vrai qu'il y avait une certaine influence. Alors, ça dépend, qu'est-ce que tu recherches, toi, quand tu vas à la braderie de Lille? Est-ce que tu ne voudrais pas avoir des promotions de ton meilleur vendeur sur des jeux de société?
Non.
Ou trouver le jeu de société?
C'est pas faux. J'avoue que je passe par les magasins de jeux de société pour vous jeter un coup d'œil aux étals de braderie.
Ouais. Mais pour ça, t'as les soldes en même temps déjà. Donc, je sais pas. Il y a une dizaine d'années, pourquoi pas? Parce que t'avais une vraie ambiance braderie, t'avais des vrais bradeux, t'avais une ambiance.
Vraiment... Voilà. Ce que je cherche vraiment, c'est l'ambiance. C'est pour ça que j'avais un petit peu apprécié la braderie post. Alors, c'était pas post-Covid, c'était post-attentat. Parce qu'on avait retrouvé une espèce de... C'était plus restreint. Il y avait une ambiance particulière entre les gens.
Alors pour le coup, c'était l'inverse. Les commerçants n'étaient pas invités. C'était juste des particuliers.
Ils avaient repensé tout l'étalage, l'organisation des rues, etc. Il y avait un peu moins de monde, mais tu pouvais plus profiter. Tu rencontrais plus les gens, en fait. Tu appréciais plus. Il y avait une ambiance. Donc, c'est pas plus mal qu'on soit revenu à ça. Bon, mais... là, la braderie des commerçants, bon, ça va être les soldes en plus, quoi.
C'est vrai que la mairie a dû...
Il y a aussi des événements culturels. J'avoue qu'il y aura des moyens de visiter des musées, des expositions en plus. Bon. Mais c'est sûr qu'il n'y aura pas 3 ou 4 millions de personnes comme il y a pu y avoir par le passé.
C'est ça, puisqu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne vivent pas en France, qui viennent.
C'est bon. J'ai des amis qui m'ont dit je pensais venir à Lille au début septembre, mais je ne viendrai pas parce que la braderie est nulle. Ils ne vont pas venir pour une braderie de commerçants. Ils ne vont pas venir de l'autre bout de la France ou de l'étranger pour une braderie de commerçants, c'est sûr.
Autre.
On a bien voyagé là.
Voilà, on a voyagé
comme quoi,
à Lille.
On peut voyager sans quitter Lille.
J'en profite pour faire un petit clin d'œil à un des membres de l'émission qui est Pierre-Yves, qui reste l'un des rares Français à venir dans les vacances, en vacances dans le Nord.
La Bretagne, c'est à l'étranger, non? Pas encore.
Presque.
Il est à Nantes, alors est-ce que c'est en Bretagne ou pas? Oh le débat, on va avoir des appels.
Alors, tu arrives à avoir le numéro pour nous citer le numéro de...
0391-2400, j'ai pas besoin de le voir, je le connais par cœur.
Quelle puissance, enfin. On voit que tu appelles souvent Radio Campus.
Mais il l'a dit assez vite pour qu'on ne puisse pas le noter, tu vois.
C'est ça, merci de ne pas appeler, sauf quand il y a de la musique. Alors, dans cet agenda, nous allons parler de choses à consommer avec modération.
Ah bon?
Non, il n'y a...
Ah oui, si on veut, oui, on va parler de bière un petit peu, mais on parle de jeu, c'est un jeu sur la bière. Ah. C'est The Belgian Beers Race. C'est des Belges. Je les avais rencontrés, alors pas l'année dernière, mais l'année d'avant, au festival qui a lieu, rappelez-moi, Trolls et Légendes, voilà, qui a lieu à Mons tous les deux ans. C'est un festival qui a lieu tous les deux ans. Alors, avec le Covid, ça va être compliqué. Je ne sais pas si ça... Je pense qu'il devait avoir lieu cette année, mais pas de chance, ça va être peut-être l'année prochaine. Enfin, on verra.
On parle bien de ce festival un peu médiéval.
Ouais, c'est carrément médiéval. Parce que c'est un festival qui dure 3 voire 4 jours, qui commence le vendredi avec des concerts musicaux, style Noël Buck, etc. Tu as des concerts, tu as des artisans... à tendance médiévale, on va dire. Tu as c'est un festival, il y a du jeu, il y a des costumes, il y a du cosplay, il y a des artisans, il y a de la nourriture médiévale, il y a des forgerons, c'est impressionnant, il y a de tout. C'est vraiment, il faut y aller. Heureusement que c'est qu'une fois, pas tous les deux ans. Sinon,
on y va souvent.
On y va très souvent, et seulement, c'est vraiment très sympa à faire.
Il y a même des petites expositions pour découvrir un peu les artworks.
Oui, il y a des artistes, etc. Il y a des artistes, etc. C'est vraiment super bien organisé, puis c'est très divers. Ouais. Il y a du jeu de société, il y a du jeu de rôle, il y a plein de choses.
Ça part sur t'as parlé du cosplay, mais ça parle aussi du médiéval fantastique, aux science-fiction. T'as des cosplays de
tu peux croiser des dragons
passe,
dans la
rue,
tu,
Star Wars,
tu te promènes entre les
tout,
stands et tu croises un dragon ou un orc ou un robot, etc. Enfin, il y a du steampunk, il y a des auteurs qui viennent, il y a des auteurs de livres de science-fiction, de fantastique qui viennent tous les ans pour des dédicaces. C'est super. Enfin, faut vraiment
c'est
y aller.
C'est une longue file de dédicaces. Alors Alors, pour pas spoiler, à chaque fois qu'on y va, on se retrouve très rapidement dans la section jeux de société pour tester les nouveaux prototypes.
Il y a quelques commerçants, etc. Il y a des bonnes affaires à faire. Il y a des trésors à trouver. Il y a des prototypes. Il y a plein de choses. Enfin, c'est un festival super sympa. Le Trolls et Légendes. Voilà. Et c'est à cette occasion que j'avais rencontré les auteurs du jeu The Belgian Beer Race, qui est un jeu de société, un jeu d'aventure où on parcourt la Belgique. En essayant de consommer, avec modération, je vous rassure, un maximum de bonnes bières, dont les trappistes. Et les bières sont classées par... Alors, le jeu a dû évoluer depuis 1 ou 2 ans, depuis que je l'ai testé. En plus, il va bientôt sortir. Et justement, le 27, donc c'est samedi prochain ou vendredi, jeudi prochain, le 27, j'ai un doute, je ne sais plus. Le 27 août, c'est le lancement de leur Kickstarter, enfin. Donc, tout est disponible sur soit sur Kickstarter en cherchant Belgian Beer Race ou sur thebelgianbeerrace.be.fr. Vous avez toutes les informations sur le jeu. Je les suis depuis très longtemps. C'est des gens très dynamiques qui font le tour de tous les magasins, toutes les expositions, tous les salons pour démontrer leur jeu. Et on s'était vraiment éclatés. Il y a une super ambiance. On peut boire le jeu en buvant de la bière. En plus, c'est pratique.
Alors, est-ce que tu tombes sur une case, t'es obligé de boire la bière correspondante ou
en fait, tu voyages, tu choisis, et le but, c'est un petit peu de finir au final, de se retrouver au même endroit. Tu as un certain nombre de jours pour parcourir, et selon que tu prennes le vélo ou que tu vas à pied ou en train, tu peux aller plus ou moins loin. Enfin, il faut gérer tes déplacements, etc. C'est tout en profitant de la culture belge, de la culture bière, culture brassicole.
Tu as pu tester ce jeu?
Absolument. Mais il y a
un ou deux ans. À premier abord, lorsqu'on regarde le plateau, on a l'impression d'avoir une sorte de jeu de loi où il y a des bières, mais c'est, à mon avis, c'est plus que ça.
Tu verrais plus, pour les connaisseurs, une sorte de Mister X ou un truc comme ça où tu as des
cases. Chaque joueur fait son propre parcours et il décide soit d'aller chercher, de boire un maximum de bières et de les partager. Il y a des petits trucs amusants. Par exemple, quand tu arrives dans un endroit où il y a un autre joueur, tu es obligé de payer ta tournée. Et donc, tu gagnes des points en plus. Enfin, c'est vraiment, il y a plein de. C'est vraiment sur la culture de la bière. Tu apprends les différents noms des abbayes, des brasseries, des bières, etc. Et en plus, sur le fait de partager, c'est vraiment très sympa.
Et là, comme tu parles sur un jeu de bière, chaque joueur possède un sac à dos aussi. Ouais. Et le sac à dos, quand tu arrives sur une bière, tu peux emporter des bières, parce que quand tu arrives sur une ville, tu peux acheter des bières, les mettre
tu
dans ton sac à dos.
Les bières.
Tu peux les boire, mais tu peux aussi acheter du fromage qui va avec les bières.
Oui, bien sûr.
Et manger le fromage te fera baisser ton alcoolémie, parce que c'est pas juste un jeu où il faut boire des bières.
Chaque joueur a un petit niveau d'alcoolémie qu'il faut, faut pas aller trop haut ni trop bas.
Parce qu'il faut les boire avec modération, n'oublions pas. Même si on ne connaît personne qui s'appelle Modération. Je ne connais personne. Mais
merci.
Bon, ça, c'est fait. Mais c'est vraiment un jeu complet qui doit vraiment être pas mal.
En attendant de pouvoir refranchir la frontière pour aller faire nous-mêmes The Belgian Beer Tour.
J'ai l'impression que c'est pour être un jeu qui fait par Carpodium, par exemple. Hein.
Oh, tout de suite.
Dans les courses de cyclisme qui passent dans les bars, c'est un peu pareil.
Après, là, ça a l'air d'être un jeu, on va dire... Je ne vais pas dire bête ni simpliste, mais tu as aussi les objectifs de partie, des objectifs de joueurs. Donc, tu arrives vraiment dans un jeu de stratégie tactique où tu devras gérer tes déplacements pour voir les objectifs que tu peux faire aussi les objectifs que les autres joueurs peuvent faire et peut-être les faire avant eux. Donc, ça reste vraiment un bon jeu qui est mis sur Kickstarter. Voilà. Il faut vraiment l'essayer.
Quand j'avais testé, moi, je m'étais fixé comme objectif de ne boire que des bières trappistes. Je crois que j'avais réussi dans mon objectif. Mais on fera une émission spéciale sur les bières.
Voilà.
C'est promis.
Promis. Alors, on parle de festival,
on parle de Belgique,
on parle de jeux de société,
et des bières.
forcément un événement qui risque de nous manquer cette année, en tout cas pour nous.
Un festival, donc le Bruxelles Games Festival, en bon français, en bon wallon, en bon belge, qui avait lieu tous les ans le dernier week-end du mois d'août, et c'est la semaine prochaine, et il n'aura pas lieu en live, il n'aura pas lieu en direct. Et malheureusement, parce que je pense que moi personnellement, c'est peut-être mon festival préféré. Pas seulement parce qu'il est à côté, mais parce qu'on l'a vu grandir. Ouais, on y était allé il y a quelques années avec Reynald.
Il y avait juste une rue.
Il y avait juste une petite rue et deux, trois magasins. Et les stands étaient installés le long des rues, dans les magasins, etc. C'était vraiment un petit festival familial si on veut, quoi. On y avait passé la nuit d'ailleurs, parce que le slogan de l'émission, du festival, c'était 27 heures non-stop de jeux.
On était
arrivé un samedi en début d'après-midi. On était reparti sans dormir le dimanche après-midi. Ouais. On dormait dans notre blabla car, pratiquement.
Oui, je pense que j'ai gêné tout le monde à ronfler. Mais le truc qui était bien, c'est que tu avais un café-jeu qui était en face d'un restaurant ou d'un truc comme ça. Et ce qui fait que pendant la nuit, on pouvait aller dans le café-jeu jouer et aller en face pour aller chercher une petite boisson pour nous revigorer. Et on a duré comme ça toute la nuit.
Toute la nuit, on n'a pas dormi et c'était génial. Un petit Agricola à 5h du matin qui nous avait bien fait plaisir.
Voilà.
On a découvert plein de jeux. Enfin, c'est vraiment... Et il y a depuis 5 ans maintenant, ce festival, il a eu beaucoup de succès. Et au lieu de se dérouler dans cette petite rue, maintenant, il se déroule dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles, qui est un immense parc. Il n'occupe que 25% de la position. Tu es venu avec nous, François, une année. Tu as vu comment le parc est immense. Le festival prend une petite partie du parc. Donc, il y a moyen de s'agrandir. Alors, le festival est toujours aussi sympa parce qu'il y a des gens qui viennent de très loin. Il y a les plus grands éditeurs viennent, les auteurs. Il y a du jeu. Enfin, tous les aspects du jeu sont les jeux en extérieur. Il y a des tournois de Molki. Il y a des auteurs qui viennent du bout du monde. Il y a des artistes. Il y a des artisans. Il y a du jeu de rôle. Il y a du jeu de stratégie. Il y a absolument tout. Il y a du jeu familial, il y a plein d'auteurs et d'éditeurs qui sont là, ils sont tous là. C'est assez grand, c'est bien organisé, puis c'est en Belgique, donc c'est forcément sympa.
Je me souviens qu'on s'était dépêché d'y aller tôt pour déposer des jeux de société que vous souhaitiez
en plus,
vendre.
Effectivement, c'est un des premiers festivals où on a découvert qu'on pouvait revendre nos jeux.
Et surtout en acheter.
Et là, sans racheter. Ouais. Donc on est content parce qu'on fait de la place chez nous en vendant nos jeux. Mais
en fait, tu reviens les mains avec deux fois plus de sacs.
Et ça marche toujours. Effectivement, il y a des tournois. La dernière, j'avais participé au tournoi de Keyforge. J'avais gagné un deck. Et oui, je n'ai toujours pas ouvert d'ailleurs.
Alors, est-ce que vous avez acheté une nouvelle extension de Keyforge ?
Non, je ne les touche pas, monsieur.
J'ai acheté un ou deux decks pour pouvoir y jouer. Effectivement, il y a des choses en plus. Bon, on pourra en reparler à l'occasion sur un spécial jeu. Mais effectivement, ça change un peu de mécanique de jeu. Mais bon.
Donc, on parlait du Bruxelles Games Festival qui n'aura pas lieu en live et en direct, malheureusement. La Covid étant passée par là. Mais ils ont organisé le Bruxelles Games Festival On Tour, toujours en même date, donc du 28 au 30 août. C'est sur Facebook, il y a toutes les informations. Donc, c'est BGF On Tour, c'est facile à trouver sur Festival ou sur notre site pour avoir le lien. Et il y a des événements dans différents endroits de Bruxelles et autres. Mais bon, c'est vrai que c'est un lien un petit peu triste, quoi, de ne pas pouvoir y aller en direct cette année. On espérait jusqu'au dernier moment. Hélas, non.
Donc, qu'est-ce qui sera différent ? C'est que ce sera plusieurs petits événements,
exactement,
un peu dispatchés
donc,
comme ça dans Bruxelles.
Les boutiques, les magasins, les restaurants, les cafés qui sont dans le domaine du jeu habituellement, au lieu de participer à un grand événement, organisent localement des petits événements, des tournois ou des rencontres, enfin, permettent à leurs clients de découvrir le monde du jeu, quoi. C'est quelque chose d'un peu organisé, par défaut.
Donc voilà, toujours une solution pour participer à un peu de jeux société. Ça se passera du 28, 29, 30 août. Donc c'est très bientôt, la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'on peut encore aller à Bruxelles ? Je pense que oui. Avec certaines mesures. Est-ce qu'on n'aurait pas notre propre LGF, Lille Game Festival ?
Je sais pas, tous les week-ends, on se retrouve pour jouer, ça suffit.
Bah oui. Bon, après, tu commences à avoir de plus en plus de barrageux, mais pourquoi pas ?
Voilà, si vous nous demandez sur Facebook de Heureusement en France nos adresses, on les partagera. Peut-être qu'un jour, on fera un festival.
Voilà, donc pour retrouver toutes les adresses, toutes les informations, c'est sur bruxellesgamesfestival.be. Effectivement, là sur le site, il y a toutes les informations du BGF On Tour.
Et peut-être qu'on découvrira une version de The Belgian Beer Race à l'occasion de ce festival. Je vous propose d'écouter un peu de musique, puisque là, on va commencer à voyager, et notamment en vous parlant d'applications mobiles qui vous aident, comme ça, à vous balader un peu. On a choisi une sorte un peu de thème de back-to-back. On va commencer avec The Red Hot Chili Peppers, puisque eux nous proposent de voyager carrément autour du monde.
Tant qu'à faire.
Red Hot Chili Peppers avec Around the World. Et on ne fait que commencer ce voyage. Et cette fois-ci, on ne va pas voyager dans l'univers ludique, comme je l'ai dit d'habitude. Là, on va vraiment voyager, vous proposer, tout en restant assis devant votre poste d'ordinateur hein, ou votre téléphone portable, de découvrir des endroits. Et on a plusieurs applications qui vous proposent de vous balader comme ça. Et je vous propose de commencer tout de suite par Window Swap.
Échange de fenêtres. Tu échanges ta fenêtre avec tes voisins.
Et ça porte très bien son nom.
C'est exactement ça. En fait, c'était développé par deux Indiens dont je ne vais même pas essayer de prononcer le nom parce que c'est impossible. Ils se sont amusés au départ à demander aux gens de leur poster des vidéos. Alors, le principe, c'est que si tu as un téléphone ou une caméra, etc., tu filmes ce qui se passe par ta vidéo ou dans ta maison, dans ton jardin. Tu fais une vidéo d'environ 10 minutes en HD, en qualité HD si possible, et tu leur envoies. Et quand tu te connectes au site window-swap.com, on te propose y a un bouton qui te dit « cliquer pour voyager autour du monde », en gros. Et tu cliques et ça ouvre une fenêtre qui t'affiche la vidéo d'une des personnes qui a posté cette vidéo. Et ça peut être une vidéo de n'importe où du monde. Ça peut être peut-être pas loin de chez toi, ça peut être en Bulgarie, ça peut être au Texas, ça peut être au Canada et au plein milieu de New York, etc.
Alors, on a tous lancé l'application. Exactement. Autour de la table. Alors, personnellement, je suis à Stendal, en Allemagne, alors, dans le salon de quelqu'un.
Il y a juste son prénom qui s'affiche, en haut à gauche, normalement.
SDD.
Voilà. Bon, c'est le pseudo de la personne.
C'est son pseudo.
Rénald, tu es où, toi ?
Alors, avant, j'étais à la fenêtre d'Yvan à Montréal, au Canada. J'ai cliqué pour changer de fenêtre. Et maintenant, je suis à Tursinae, en Égypte, sur la vidéo, la fenêtre d'Ahmed.
Alors, toi, tu as de magnifiques palmiers.
Un palmier, de la mer. Avec une structure qui ressemble au loin à un bateau.
Moi, je suis vraiment dans la maison de quelqu'un avec une piètre vue sur son jardin.
C'est pas une vidéo en direct, hein, c'est une vidéo que la personne a enregistrée, comme je disais, avec son téléphone ou avec sa caméra, etc. Et envoyée au développeur du jeu, enfin du jeu, oui, c'est presque un jeu, du site windowswap.com, qui commence à être un petit peu submergé par les envois, par les appels. Au début, c'était une application qui, bon, ils gagnent pas d'argent, quoi. C'était vraiment une espèce de projet de développement, quoi. Et ils commencent à avoir de plus en plus de succès. Et ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, on se prend au jeu, quoi. Au début, je regardais, j'en ai fait une, deux, puis une heure plus tard, je dis, bon, je vais peut-être me calmer. Enfin, parce que tu tombes sur des vidéos et tu découvres presque l'intérieur des gens. Il y a des gens, des fois, qui laissent des messages, parce que tu as la vidéo, tu as l'image de la caméra, mais tu as aussi le son, ça enregistre le son. Donc, des fois, il y a une vidéo qui est sur Brooklyn, par exemple, ou Chicago, je ne sais plus quelle ville, si c'est New York ou Chicago. Tu as des voitures qui passent, donc tu entends les sirènes de police, etc. C'est pas mal. Des fois, souvent, tu as un animal. Il y en a qui aiment bien filmer. Il y a un chat, je sais que François n'aime pas les chats, donc il y a des vidéos sur lesquelles tu vas râler un peu.
Voilà,
il y a un chat.
J'ai Alt F4.
Ça, c'est la vidéo russe. Il y a une autre vidéo, c'est encore pire. Tu as un chat en gros plan qui te regarde pendant 5 minutes. Et c'est assez amusant. Et tu peux évidemment participer. En soumettant tes propres vidéos. Donc, il faut enregistrer une vidéo d'environ 10 minutes, avec le son si possible, en qualité HD, c'est le critère.
Et l'envoyer au développeur. Il y a d'autres critères qui font que ta vidéo va être sélectionnée ou non. Je pense que tu peux pas.
En fait, le problème, c'est qu'ils sont que deux. C'est un couple c'est un couple qui se fait. Donc, ils sont un peu. À mon avis, ils n'ont pas le temps de regarder toutes les vidéos qu'on leur envoie, surtout en entier. Donc, peut-être qu'il y a des trolls, par moment. Il y a peut-être des surprises, des farces. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé toutes les vidéos. C'est impossible de regarder toutes les vidéos. Je ne sais pas combien il y en a en ce moment. Il y en a de plus en plus au moment où on parle. Donc, j'ai presque envie, une fois, effectivement, d'enregistrer une vidéo par ma fenêtre ou dans un paysage.
Dans le studio de Radio Campus. Plus.
Ouais, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre ? On voit un parking. Pour l'instant, c'est pas super passionnant.
J'ai vu des fenêtres qui n'étaient pas plus passionnantes que ça non
J'avoue.
Plus. Il y en a qui sont bien rigolotes.
On passe d'une fenêtre qui, des fois, c'est enneigée, puis tu changes, et puis tu es en plein été. Et puis, c'est assez... Des fois, il y a des animaux. C'est vraiment sympa.
C'est rassurant de savoir qu'on n'est pas dans le contexte.
Il y a des vidéos qui est très sympa où on voit c'est des blaireaux, je crois,
ouais,
qui viennent dans un
laveur,
En fait, le. Il y a des bébêtes qui viennent dans le jardin de la personne en pleine nuit.
Et on voit que c'est fait exprès parce que tu as des mangeoires à droite et à gauche.
Il y a des mangeoires qui sont destinées à accueillir les animaux, donc c'est très sympa. Après, tu peux très bien, je me suis dit, et si je mettais un faux, j'allais récupérer un vieux film en noir et blanc, style les débuts du cinéma, les frères Lumière, etc. Là, et puis je mettais un film en noir et blanc, etc. pour faire croire que ça vient de moi. Enfin, ça pourrait être amusant, tu peux te retrouver dans un autre univers. C'est un moyen de voyager, tout simplement. C'est encore mieux si tu as chez toi une télé géante, un écran géant, que tu mets ça à la place de ta fenêtre pour faire croire que c'est vraiment le paysage que tu vois. Ça peut être sympa.
Alors moi, j'ai une petite passion personnelle qui est d'ouvrir des walks en 4K. Donc je tape sur YouTube walk 4K et moi, je De préférence, je choisis le Japon. Donc, ce sont juste des gens qui se baladent avec une caméra un peu au-dessus de la tête ou qui portent sur leur...
Une GoPro ou une vraie caméra qui porte... Pas une GoPro, peut-être pas, parce que ça bouge, mais peut-être les caméras, parce que maintenant,
on trouve
très facilement des stabilisateurs.
C'est ça.
Tu peux te filmer avec ton téléphone portable, etc., et te promener pendant des heures, et la caméra tremble très stable. C'est vraiment une qualité super bonne, j'avoue.
Et pendant une heure et demie, ils vont se balader dans des rues complètement... usual.
Bah, au hasard, oui. C'est un moyen
et
de
visiter. Ça permet de découvrir des villages et d'entendre un peu toutes ces sonorités. On se retrouve immergé comme ça. Et je pense que tout le monde fait ça autour du monde. Alors, c'est vrai.
On trouve beaucoup de vidéos, de documentaires, etc., qui vont dans des endroits connus. Enfin, je sais pas. Si y a une chaîne de télé étrangère qui fait un reportage sur Paris, tu vas avoir beaucoup de vues du Sacré-Cœur, de Notre-Dame, des Champs-Élysées, la Tour Eiffel, etc. Bon. Mais c'est vrai que c'est sympa aussi d'avoir des vues presque en naturel de gens qui se baladent au milieu de petites rues traditionnelles, un peu perdues éventuellement. Dans les marchés, etc., d'entendre les vraies voix des gens sans qu'on les interroge, sans qu'on les interviewe, sans que ça soit transformé, sans musique en plus pour te polluer l'arrière, le fond sonore, ce qui est souvent le cas.
Très important.
Parce que quand tu as un reportage sur Paris, tu as forcément de la musique d'accordéon en arrière, ça c'est obligatoire. Là, non, c'est woke, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu n'as pas de son, tu es presque en train de te promener toi-même, quoi.
Et un peu dans le même style, vous avez des sites qui vous proposent d'aller directement sur des caméras. De sécurité, soit de surveillance qui ont été hackées et mises à disposition sur le site, ou des gens tout simplement qui ont une caméra pignon sur rue et qui proposent de filmer en direct ce qui se passe. Donc c'est un petit plus.
Absolument, il y a très longtemps. Alors le site n'existait plus, mais Sony, qui est un fabricant de caméras de surveillance, webcam, etc., à une époque, il y a 10, 20 ans peut-être, avait fait un site qui recensait toutes les webcams Sony qui étaient toutes dans le monde, que les gens partageaient. Si tu mettais ta caméra Sony en partage et que tu avais un paysage sympa, une plage, etc., partout dans le monde.
Et si tu avais cliqué sur j'accepte les conditions d'utilisation.
Non, ça n'existait pas à l'époque. Tous ces boutons-là, tous ces RGPD, tout ça, ça n'existait pas. Et je passais des heures, moi, je mettais ça dans une fenêtre réduite sur mon écran. Et par exemple, je regardais selon l'heure de la journée, parce que c'était en direct, je mettais les webcams qui surveillaient la météo des plages du Japon. Mmh. Et il y avait certaines plages, comme Enoshima, etc., où tu avais des surfeurs qui venaient. Donc genre, il était 18h en France, etc., mais tu avais les surfeurs au Japon qui se levaient le matin pour aller surfer, etc. Et je voyais la météo en temps réel, et je voyais les surfeurs. T'étais un petit peu transporté d'une certaine façon, quoi. C'est un moyen de voyager qui est assez sympa.
Et tout ça est un peu mis en avant, surtout par les progrès qu'a effectué Google Maps. C'est vrai que Google a vraiment investi sur la cartographie.
Au
sur
niveau voyage, oui.
Et ils ont quand même fait balader des milliers de voitures pour capturer les environnements. Des photos satellites qui couvrent maintenant la majorité de la surface de la planète. C'est incroyable l'avancement qu'on a fait justement pour vous immerger.
Parce que avant, quand tu prépares un voyage avant, une randonnée, peu importe, que ça soit un voyage à l'autre bout du monde.
Mais comment on faisait avant? C'est ça la
question. Tu regardais une carte routière.
Tu avais des cartes routières, tu te renseignais, tu allais dans une agence de voyage, tout simplement, qui te disait il y a ça à voir.
Appelais l'hôtel.
Ce musée est ouvert de telle heure à telle heure, on peut y voir tel pays. Mais maintenant que tu as Google Maps, tu peux préparer ton voyage à l'avance, tu peux visiter avec Google Street View. À la limite, tu n'as même plus besoin de voyager, quoi. Tu es arrivé sur place, ça je l'ai déjà vu. C'est comme sur Google. Enfin, limite, je me demande si ça ne gâche pas un petit peu le plaisir, mais bon.
Ça dépend, ça te permet de mieux savoir où tu mets les pieds.
À titre je pense que quand tu vas visiter un endroit ou une ville que tu ne connais pas, le meilleur moyen de le visiter, c'est de te perdre un petit peu, quoi.
Alors, le meilleur moyen, justement, de se perdre un petit peu est d'utiliser des applications. Mmh. Et une qui nous a particulièrement...
Intrigué.
Voilà.
Intrigué.
C'est Randonautica. Alors, Randonautica, c'est une sorte d'algorithme. Vous allez prendre votre téléphone et, le petit plus qui est noté sur l'application, vous allez penser secrètement à quelque chose. Et l'application, sans savoir ce que vous... Enfin, sans avoir... lisant dans vos pensées, elle va vous proposer une location. Ça veut dire un endroit, et elle va vous le géolocaliser et vous allez devoir vous y rendre. Et lorsque vous vous y rendrez, vous verrez un élément qui est en rapport avec ce que vous avez pensé.
Exactement. C'est assez puissant. J'ai découvert ça un petit peu par hasard sur la chaîne vidéo dont tu as parlé, que tu as cité tout à l'heure, que je n'aimerais pas citer. Il y a plein de gens. Alors, cette application existe depuis plusieurs mois, peut-être pas plusieurs années. Il y a plein de gens qui se sont filmés en installant l'application et en disant, en se mettant, par exemple, une personne peut dire le thème qui m'intéresse, c'est l'amour ou la rencontre. Ou alors, il y a quelqu'un qui pense, moi, je pense à la couleur violette, par exemple, j'ai envie de voir des choses qui sont violettes. Ou moi, j'aime bien les lapins, j'ai envie de voir des choses en rapport avec les lapins. Et ils se sont fixés comme objectif, en installant l'application, de visiter 3 endroits consécutivement, en se filmant, bien sûr, pour YouTube, ça y est, je les ai cités, et de visiter et de voir ce qui se passait, en imaginant que l'application, comme ils le disent, la théorie de l'application Ordonautica, c'est tes pensées peuvent avoir un impact sur le monde qui t'entoure. Alors, ils utilisent tout un langage très abstrait en parlant de physique quantique, d'algorithmes, d'intelligence artificielle, etc.
Surtout la théorie du chaos.
La théorie du chaos, mais aussi tout ce qui est énergie, dans le sens où tes pensées peuvent t'emmener sur des lieux à forte ou moindre énergie. Donc, tu as tout un discours qui peut ressembler et rassembler surtout énormément de monde entre ceux qui croient à l'énergie de la Terre, qui résonne avec ta propre énergie du corps, ceux qui croient à la théorie du chaos, ceux qui croient à tout ce qui est scientifique, la théorie quantique. Enfin, tu as tout ce qu'il faut, tu as tout un medley de mots qu'il faut pour te faire croire que ça fonctionne.
Voilà. Alors que peut-être que derrière, c'est juste un truc qui pointe aléatoirement sur la carte. Avant, c'est ce qu'on faisait. Avant qu'on avait une map monde, tu prenais une fléchette, tu affichais une carte du monde sur ta tête. Où est-ce qu'on part en vacances? Tu jettes la fléchette et c'est la flèche qui va décider.
Dans l'océan Pacifique.
Peut-être. Et là, c'est une application. Tu peux décider, quand tu installes l'application, il y a plein d'options, enfin, c'est pas compliqué non plus, mais tu peux dire, tu peux te fixer une limite, 1 km, 5 km, 10 km, et l'application va te pointer à un endroit. Et tu peux t'y rendre. Elle va te calculer l'itinéraire. Hein. Si tu vas t'y rendre, et une fois sur place, tu vas observer. Et est-ce qu'effectivement, il y a quelque chose en rapport avec la pensée qui te menait? Alors, dans les vidéos que j'ai regardées qui étaient intéressantes, il y avait une des personnes qui a été filmée qui pensait des choses en rapport avec l'aviation et les avions. Et ce qui était amusant, c'est que pendant qu'il se rendait, donc avec l'équipe de télévision qui tournait le petite émission, il y avait, une fois arrivé sur place, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien au rapport, mais pendant tout le trajet, on entendait des bruits d'avion, parce qu'ils passaient pas loin de l'aéroport. Est-ce que c'était un hasard ou pas? On ne sait pas. Et arrivé sur place, il voyait des aimants qui rappelaient quand même des souvenirs à la personne, qui étaient liés à sa petite enfance, où effectivement, il y avait du sang. Donc c'est troublant, mais est-ce que c'est toi qui imagines, à partir des éléments que tu rencontres, des coïncidences, ou est-ce que c'est vraiment il y a quelque chose derrière l'application qui a deviné? On ne sait pas.
C'est ça aussi, c'est que la multitude de coïncidences ou de futilités que tu ne fais même plus attention quand toi tu marches dans la ville.
Exactement.
On va dire de chez toi à Radio Campus, est-ce que tu as fait attention à ne serait-ce qu'un dixième de tout ce qui s'est passé autour de toi?
C'est un chemin qu'on tous les dimanches ou presque.
Voilà. Mais une fois qu'on te dit, va à tel endroit.
Tu vas trouver quelque chose et là tu as tous tes sens en alerte et tu vas repérer tout plein de choses et tu vas te demander est-ce que ça a une signification ou pas? Est-ce que ça c'est un signe ou pas?
Et des fois ça donne des bonnes surprises. Alors évidemment, si tu vas sur YouTube ou d'autres sites, etc., Instagram, ça marche aussi, ou sur TikTok, ça marche aussi beaucoup, ces applications, et que tu cherches Randonautica, tu vas trouver plein de vidéos de gens. Mais évidemment, si les gens ont posté ces vidéos, c'est parce que ça a marché, que ça a donné quelque chose. Mais peut-être que derrière, pour une personne qui a mis une vidéo, il y a peut-être 100 personnes pour lesquelles ça n'a pas marché, ça n'a rien donné.
Des personnes qui ont voulu mettre ça justement pour faire un buzz aussi.
Tu pointes exactement, c'est pour ça qu'il y a un gros succès sur l'application, c'est que beaucoup de gens l'ont installée. Beaucoup de gens se sont retrouvés, mine de rien, à aller à des endroits et puis se dire qu'est-ce que je fous là, quoi. Enfin, c'est le coin de ma rue, je le connais très bien.
C'est peut-être un endroit où tu ne serais jamais allé, par contre.
Mais il y a eu des gens qui ont pris l'application, sont allés, par exemple, au bord de la mer, ont vu une valise. Mmh. Ouais, mais il y a quoi dans cette valise? Il y avait un sac plastique qui sentait très mauvais.
Oh.
Ils se sont dit oh oh. Alors ils ont appelé la police et effectivement, il y avait un cadavre dedans. Donc, eux, forcément, disent « l'application m'a mené un cadavre, vous ne vous rendez pas compte ».
C'est génial.
Après, tout dépend de ce qu'elle a pensé.
Et en gros, sur l'utilisation d'un million de personnes, il y en aura forcément 10 qui vont trouver des choses complètement hallucinantes ou farfelues.
Après, il y a ce qu'on appelle des « fakes ». Effectivement, j'ai vu des applications où des gens « Oh mon Dieu, l'application m'a amené dans un endroit sous un pont. Il y avait des dessins d'enfants mystérieux. Oh !» Et puis, quand par hasard, en fond, tu entends des cris d'enfants, des pleurs d'enfants, etc. Voilà. Tu sais que ça peut être complètement inventé. C'est amusant, c'est bien fait, c'est mis en scène. Mais c'est une façon de voyager. Ça, là, si l'application peut t'amener à découvrir, pas forcément loin de chez toi, quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres, des endroits où tu n'aurais jamais pensé aller, parce que tu travailles très loin, donc tu prends ta voiture le matin, mais tu passes à côté d'endroits où il y a peut-être des histoires, il y a des endroits. J'ai vu une histoire qui était assez intéressante, alors je pense qu'elle était vraie, c'est que l'application a emmené un groupe de personnes, de youtubeurs, à un endroit dans une forêt, aux États-Unis ou au Canada, je ne sais plus. Ils sont arrivés à un endroit et il y avait une espèce de pancarte, un petit peu comme quand il y a quelqu'un qui meurt dans la région. Souvent, il y a des fleurs et puis on met un panneau en disant pour se rappeler de la personne, etc. Et là, c'était perdu en pleine forêt. Il y avait juste un petit carton qui rappelait que quelques années d'avant, genre le 27 juillet, je dis au hasard, il y avait quelqu'un qui s'était fait assassiner à cet endroit. Sauf que cette information, elle était trouvable nulle part. Enfin, cette mort n'était répertoriée nulle part, ni sur Google, sur Facebook, nulle part. Mais l'application avait quand même emmené les gens ce jour-là, le même jour, le 27 juillet, le jour de la date anniversaire de la mort. Comment l'application a pu savoir ? Est-ce que cette vidéo est un fake ? Est-ce que c'est un hasard complet, etc. Ben, c'est amusant de se poser. Tu voyages virtuellement, tu te poses des questions.
Alors, est-ce qu'on spoil la technique de l'application ou pas ?
Je sais pas. Est-ce qu'il y a du spoil ou pas ?
Est-ce qu'on le révèle la semaine prochaine ? Est-ce
Mais c'est que du hasard ?
Non, c'est du hasard quantique généré par des bio-ondes de ton cerveau.
Ouais. Par contre, il ne faut pas oublier, c'est que si l'application te balance des situations et des localisations complètement au hasard, il faut aussi penser qu'elle peut t'amener sur des zones privées ou des zones qui sont un peu fermées. Par exemple, tu vas chez quelqu'un ou tu vas sur un stade qui est fermé la nuit, que tu es en pleine soirée, tu ne vas pas te mettre en délit. Non. Pour justement vérifier que l'application a raison. Il y a un moment donné, il faut aussi que la personne réfléchisse elle-même.
Et derrière une barrière ou une grille, etc., tu n'as pas le droit, c'est illégal de franchir la barrière.
C'est bien spécifié dans l'application lorsque tu la démarres. Do not trespass.
Bon, après, si vous n'avez pas envie d'installer l'application, c'est pas grave. Hein. Tu prends n'importe quelle application de cartage, je sais pas comment on pourrait dire, de mapographie de GMA, ou alors tu achètes une vraie carte en papier de ton quartier de ta région et comme je disais tout à l'heure, tu prends une fléchette, tu la lances au hasard et tu vas tomber sur quelqu'un de sympathique, etc. Tu vas peut-être trouver un coin que tu connais pas, etc. Profiter justement du Covid pour découvrir toutes les petites rues à côté de chez vous dans lesquels vous n'allez jamais.
Ouais, je ne sais plus si c'était une nouvelle ou un roman que le titre c'était « L'aventure est au coin de la rue ».
Exactement.
Tout simplement.
Alors Dominique, je te propose de découvrir plusieurs endroits avec le monde par Yako.
Alors Yako, c'est un des personnages des Animaniacs, une série des années loin. Je crois qu'elle est ressortie 80-90, ouais. Etc. Et il y avait ce personnage Yako qui faisait de temps en temps, il faisait une version, une chanson. Alors là, par exemple, ça va être les pays du monde, mais tu avais aussi tous les États des États-Unis, tu avais tous les présidents des États-Unis. Il y a même une vidéo où il fait tous les mots de l'alphabet. Tous les mots du dictionnaire. Bon, on la passera pas parce qu'on n'aura pas le temps dans l'émission, mais on va se contenter de faire la version française de Yako qui nous emmène autour du monde.
C'est un peu les Looney Tunes et tout, c'est ça ?
C'est ça. C'est en moins de 2 minutes.
Et maintenant, les nations du monde présentées par Yako Warner.
États-Unis, Canada, Mexique et Panama, Haïti, Jamaïque et Pérou, République Dominicaine, Cuba, Caraïbes, Groenland, Salvador et tout, Porto Rico, Colombie, Venezuela, Honduras et Guyane, ça défile, Guatemala, Bolivie et puis l'Argentine, Équateur, Chili et Brésil, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermude, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname et Guyane française, Barbade et le Guam. Norvège et Suède, Islande et Finlande et l'Allemagne, tout ça en une pièce. La Suisse et l'Autriche, la Tchécoslovaquie, l'Italie, la Turquie et la Grèce. Pologne, Roumanie, puis Écosse, Albanie, Irlande, Russie et Oman. La Bulgarie, Arabie Saoudite, Hongrie et Chypre, Irak et Iran. Et la Syrie, le Liban, Israël, Jordanie, le Yémen, Koweït et Bahreïn. Pays-Bas, Luxembourg, Belgique et Portugal, France, Angleterre, Danemark et Espagne. Les Pakistan, Birmanie, Afghanistan, Thaïlande, Népal, les Bhoutan, Cambodge, Malaisie, le Bangladesh, l'Asie, la Chine, la Corée, le Japon, Mongolie, le Laos, le Tibet, l'Indonésie, les Philippines et Taïwan, Sri Lanka, Nouvelle-Guinée, Sumatra, Nouvelle-Zélande, Bornéo et le Vietnam, Tunisie et Maroc, Ouganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti et Botswana, Mozambique et Zambie, Swaziland et Gambie et Guinée, Algérie et Ghana. Burundi, Lesotho et Malawi, Togo, Ex-Sahara, Espagnol, Nigérie, Nigeria, Tchad et Libéria, Égypte, Bénin et Gabon, Tanzanie et Somalie, et Kenya et Mali, Sierra Leone et Alger, Dahomey, Namibie, Sénégal et Libye, et Cameroun, Congo et Zaïre, Éthiopie, Guinée-Bissau, Madagascar, Rwanda, Maori, Caïman, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yougoslavie, Grèce, Mauritanie, et puis Transylvanie, Monaco, Liechtenstein, Malte, Palestine, Fidji, Australie et Soudan.
Voilà,
on a fait le tour du monde rapide, tranquille, efficace. Je crois qu'il en manquait un ou deux, mais je ne vais pas les citer.
Alors, on continue dans ces applications qui vous font voyager. Alors, il y en a une qui vous fait travailler un peu votre connaissance du monde. Elle s'appelle GeoGuessr.
Absolument. C'est une application qui a été créée toujours basée sur le principe de Google Maps et Google Street View. Et c'est un type qui a fait une espèce de site qui s'appelle GeoGuessr et il s'amuse à... En fait, le principe, c'est que quand tu te connectes au site, tu peux choisir l'endroit où tu vas. Le site va t'afficher un endroit dans le monde, au hasard, qui a été repéré par Google Street View, bien sûr. Et il va te demander de deviner où tu es. En fait, c'est ça le principe. Et tu as autant de temps que tu veux, mais tu peux regarder autour de toi, tu dois deviner. Il n'y a pas d'indication et tu vas devoir essayer de deviner à quel endroit dans le monde tu es, simplement en devinant, en reconnaissant, je ne sais pas, les plaques des voitures éventuellement, enfin la marque des voitures, les arbres.
Surtout la marque, parce que les plaques sont
soleil, etc., la forme des maisons dans quel endroit, etc. Et tu vas afficher la carte du monde si tu vas te pointer. Et en fonction de la précision avec laquelle tu t'es situé, tu auras un score. Si je suis entre 0 et 5000, si je n'ai pas de bêtises.
Qui correspond à la distance que tu es du point.
Plus tu es proche, plus tu as un score élevé, c'est normal.
Alors, est-ce qu'on ne se lancerait pas un petit défi ? Un petit défi.
Alors, ça va être très radiophonique, mais ce n'est pas grave, on va essayer.
Alors, moi, tu en as fait un d'homme ou...
Je peux lancer. Alors, quand on arrive sur le site, donc GeoGuessr, ça s'écrit GeoGuessr. R.com, on arrive et on peut choisir un endroit au hasard dans le monde, on peut choisir parmi les lieux connus, on peut choisir que la France par exemple. Il y a des banques de données entières de points de départ, on va dire, que sur la France, etc., les points connus.
Vous pouvez jouer avec ça entre amis, définir...
C'est ça qui est assez sympa.
Un temps limite, hein, 10 secondes. Alors,
tu peux te fixer des challenges, tu peux te dire...
Tourner la caméra, enfin, tu as plusieurs
et
possibilités.
C'est un super moyen de découvrir... Alors, ceux qui ont beaucoup voyagé, les grands baroudeurs, sont vachement avantagés parce qu'ils reconnaissent à force d'avoir voyagé, j'imagine, un petit peu le type des paysages, mais c'est un moyen de se connaître. Alors, François nous a montré sur son écran un magnifique... On voit une rue.
Alors, on le mettra sur le site, hein, si vous nous écoutez en podcast, vous pouvez aller sur le site et voir cette première image.
On voit, tout ce qu'on voit, c'est une rue. On voit est-ce qu'on a le droit de tourner la caméra, s'il
non.
vous plaît?
Alors, déjà, est-ce que tu as choisi monde ou France?
Monde.
Monde. Alors, il y a des champs sur le côté.
Il y a des poteaux électriques
qui ressemblent à ceux qu'on a en France. Ça se trouve, on est à 5 km d'ici, je ne sais pas. Est-ce qu'on est au nord ou au sud de...
Où est-ce que le soleil se lève?
Après, je vois un panneau qu'on voit de dos, donc on ne peut pas voir la signalétique, mais le panneau dans une ligne droite et en losange.
Oh.
Donc je ne connais pas beaucoup de panneaux de
circulation
française.
On voit une maison au bout qui est blanche. Ouais. Ça pourrait être dans n'importe quel pays. La météo, il y a des nuages dans le ciel est bleu, donc on n'est pas au pôle Nord.
Tu as le tracé au sol qui est jaune.
On n'est pas en plein milieu de l'Afrique. J'ai envie de dire, je ne sais pas, je vois bien un pays comme, c'est vert, il n'y a pas de neige, etc., mais je verrais quand même la Norvège ou quelque chose comme ça.
Norvège ici, moi je dis Croatie. Croatie,
marquage au sol, tout ça. Ouais. Allez, dans ces cas, je vais dire Canada pour dire autre chose.
Donc, François va pointer au hasard. Sur la carte.
Alors.
Mais avec le panneau en losange.
Le panneau en losange, t'es sûr hein, pour ton choix. Dom, tu avais dit la Norvège.
Norvège.
Allez, je vais te taper en Norvège. Alors, normalement, vous devez sélectionner exactement la plus précise. La bonne réponse, nous étions aux États-Unis, en Alabama.
Oh mon Dieu.
J'étais pas loin.
Donc, je pense que c'est Reynald qui remporte ce point. C'est magnifique. On mettra un autre GeoGuessr sur lequel on donnera la réponse la semaine prochaine. Pourquoi pas? Mais voilà, c'est assez sympa comme jeu.
On peut jouer gratuitement, on peut jouer entre amis gratuitement, on peut s'inscrire, on peut créer un compte, on peut même payer, parce qu'effectivement, et celui qui a créé le site est très fort, parce qu'il met régulièrement des vidéos sur YouTube où il se donne des challenges. Et par exemple, il doit deviner 5 locations en une minute, etc. Et il est très très fort parce que c'est quelqu'un qui a voyagé beaucoup. Et il est très très fort parce qu'il arrive à deviner tout de suite si il est au nord ou pas. Et on voit qu'il a rien qu'en voyant genre 2 caractères sur un magasin. Il voit une publicité, il reconnaît la forme des caractères, il sait dans quel pays il est. Et des fois, alors des fois, il se trompe de 5000 km, mais c'est pas grave. Mais des fois, il tombe à 500 mètres près. C'est très impressionnant. Mmh. Et c'est un moyen de voyager ou un moyen de challenger. Si vous voulez passer une soirée entre amis, etc., comme jeu apéro, c'est parfait. Quoi.
Et tu parles de YouTube, mais tu as aussi énormément de YouTubers et de streamers, par exemple sur Twitch, qui utilisent GeoGuessr pour faire des streams. Et ils utilisent leur communauté, donc le chat qui est de leur stream, où ils discutent avec eux de voir exactement où est-ce qu'ils se trouvent. Là, par contre, eux, ils bougent la caméra, ils vont à divers endroits et variés.
Chacun fait ce qu'il veut.
Voilà. Et c'est très intéressant parce que
tu apprends pas mal, parce que tu as des gens qui t'apprennent des choses sur l'endroit où tu es, pourquoi telle église s'appelle comme ça, etc. Pourquoi dans tel endroit la monnaie s'appelle comme ça, et etc. etc. T'apprends plein de choses sur un des pays, mais vraiment, c'est un moyen de voyager au hasard, pratiquement. Plutôt que de... Ouais, c'est ça. C'est un petit peu comme avant, quand on lançait une fléchette sur la carte. Et
ce qui est rigolo, c'est que des fois, tu vois des vieilles voitures. Tu dis, ah, ça, c'est bon, c'est des voitures. On doit être dans les pays de l'Est, parce que c'est eux qui ont nos épaves. Et tu te rends compte qu'en fin de compte, tu étais bien en France.
Oui, c'est ça. Ce qui serait très amusant, c'est qu'un jour, quelqu'un, c'est quoi ce coin paumé? Ça a l'air complètement pourri. Puis qu'il s'aperçoit qu'en fait, qu'il est à 10 mètres de chez lui. Tu vois, on voit sa maison. C'est quoi cette voiture pourrie? Puis en fait, c'est sa voiture à lui. Ça serait super amusant.
C'est ça, ça tombe. Il y a des gens qui sont tombés près de chez eux.
Ça pourrait être très...
Bon, après, le site est légèrement payant, c'est ça?
Ah oui, il faut payer pour accéder aux fonctionnalités un peu avancées. Pour pas. Bon, tu peux jouer gratuitement largement, selon de temps en temps. Voilà, tu es obligé d'attendre si tu payes pas. Mais je pense que ça peut être assez sympa si on joue régulièrement, si on est en manque de voyage comme en ce moment.
Après, rien ne t'empêche de prendre Google Maps, de le dézoomer, faire tourner, zoomer.
Et de demander à quelqu'un d'autre de cliquer au hasard pour toi.
Et te mettre en street view, et c'est parti l'aventure. Ça peut être sympathique. Alors ça, c'est une application qui vous fait voyager tout en restant chez vous. Mais il ne faut pas oublier qu'en ce moment, on est quand même dans une ère de jeux, notamment sur smartphone, qui vous propose de la réalité augmentée, cette fois-ci, qui a été plus ou moins plébiscitée par Pokémon Go. Mmh. Qui a quand même fait une grosse percée. Alors, on est loin des débuts de Pokémon Go, je ne sais pas si vous vous souvenez, où lorsqu'un point apparaissait, il y avait des milliers de gens qui couraient dans Tokyo pour aller chercher ce Pokémon rare.
Alors, il y a eu des accidents, il y a eu des... ça a bouleversé le monde.
C'est de là qu'on a eu des réglementations de marcher avec son téléphone, puisque les gens étaient scotchés dessus pour aller chercher le prochain point. Et je pense que ça a vraiment favorisé la marche pour certaines personnes qui étaient bloquées chez elles. Et ça leur a forcé. Alors bien sûr, on ne parle pas d'ici d'utilisation de simulateurs de GPS.
Non.
Puisque c'est bien connu, vous pouvez installer une petite application qui va modifier votre GPS sur votre téléphone pour faire croire que vous êtes à un autre endroit.
Il faut vraiment être feignant, là.
Donc, Pokémon Go peut vous voir en France et soudainement aux États-Unis. Tiens, c'est bizarre. C'est un peu le principe du VPN également. Et Pokémon Go, il faut le rappeler, c'est construit sur une base qui avait été vraiment développée par Ingress.
Ingress est un jeu que... Alors moi, je l'avais testé au tout début. Effectivement, c'est un jeu... c'est pratiquement le même principe que Pokémon Go. Il y avait deux équipes, une équipe rouge. Et tu choisissais ton camp, en fait. Il y avait deux camps. Et le principe, c'est qu'effectivement, ça se basait sur des cartes du monde réel. Tu pouvais afficher sur ton téléphone des points sensibles, des points d'attraction, des points stratégiques, etc. Et avec ton équipe, tu pouvais la défendre. Tu pouvais te déplacer physiquement dans des endroits pour visiter des endroits, pour les marquer, pour essayer de les capturer, pour les défendre contre l'équipe adverse, les bleus ou les rouges, etc. Et cette équipe a été presque recrutée par Pokémon pour devenir Pokémon Go sur la même base. Et ils avaient eu déjà un petit peu leur petit succès d'estime à l'époque, mais là, avec Pokémon Go, ils ont explosé.
Ce qui a donné naissance à maintenant de nombreux jeux, hein, puisque exactement. Harry Potter a sa version exactement. En réalité augmentée, The Walking Dead, Ghostbusters, Jurassic Park, Angry Birds.
Et Minecraft aussi.
Minecraft, effectivement, qui est sorti assez récemment, qui vous propose de construire vos petites choses
c'est
autour
c'est
de chez vous.
C'est assez amusant parce que tu peux voir les vrais bâtiments autour de toi, les rues dans lesquelles tu te promènes d'habitude, mais en mode Minecraft sur ton écran. Et donc, si tu as une église ou un immeuble connu par le traiteur de chez toi, tu peux le voir, elle installe l'application, tu te déplaces et tu le vois sur ton écran, mais en mode Minecraft avec tes petites briques simplifiées. Mm-hmm. C'est une impression de revisiter ton quartier ou des endroits que tu connais.
En plus, il t'oblige à visiter, parce qu'en visitant ce qu'il y a autour de toi, tu as des petits coffres, comme ils les appellent, où tu peux choper des petits cadeaux, donc des briques, des animaux, l'univers de Minecraft. Et après, une fois que tu es posé, par exemple,
tu peux les démolir. Tu peux les démolir comme de Minecraft pour récupérer les ressources.
Tu te poses et tu te mets en réalité augmentée, ce qui veut dire que là, tu es dans un parc, sur le petit brin d'herbe que tu es, tu commences à construire quelque chose avec les briques que tu as reçues des cadeaux de tes visites.
Les autres qui arrivent dans le parc peuvent les voir.
Exactement.
Mais, et t'as quelqu'un qui marche sur ton truc, qui fait même pas gaffe, parce que toi t'es en réalité augmentée, tu construis tranquillou, même le sol.
Alors tu fais des pièges.
Absolument. Mais j'ai vite désinstallé le Minecraft, parce que en fait tu restes coincé dessus, tu restes sur ton téléphone et tu regardes plus du tout ce qui se passe autour de toi. Parce que j'étais dans le train, etc. Je regardais et je voyais mon train en Minecraft qui se déplaçait dans l'univers, etc. Mais en fait tu passes ton temps à ça, quoi. Et c'est presque dangereux à la limite.
Et j'ai vu une autre version, c'est Dragon Quest. Qui a eu sa version en AR. Malheureusement, les maps ne sont développées qu'au Japon.
Ah, donc ça ne marche pas ici alors.
Okay. Donc voilà, non. Ici, ça ne fonctionne pas, sauf si tu utilises une technique pour changer ton GPS.
Non, c'est pas bien. On ne conseille pas. À utiliser avec modération, c'est ça ?
Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme jeu ou application ? On peut éventuellement parler de Flight Simulator.
Un petit jeu, mais à mon avis, qui ne tient pas sur mobile.
Non.
Parce qu'effectivement, la version 2020 de Flight Simulator est sortie. Alors, tous les médias en ont parlé, parce qu'effectivement, ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu de sortie. Et en plus, c'est un studio français, dont je n'ai plus le nom malheureusement, qui l'a sorti, qui est éditeur normalement. Et en fait, comme on en parlait tout à l'heure, Flight Simulator, c'est vraiment l'application qui, depuis très longtemps, c'est vraiment un simulateur de vol où tu peux presque apprendre à piloter un vrai avion, et que ce soit du petit Tesla ou aux avions les plus avancés,
ou Airbus,
exactement, tous les derniers, peut-être bientôt les navettes spatiales, je ne sais pas. Et tu peux quand tu as le jeu, selon ton niveau de qualification, commencer à zéro, te dire je prends un point au hasard sur la carte et mon avion est déjà en vol et je me contente de promener. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui s'installent et qui en profitent pour aller survoler leur village de naissance, etc. C'est quelque chose qui se fait souvent. Tu peux te filmer. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait ça, qui ont filmé pour voir si les cartes correspondent bien. Mais tu peux aussi faire la totale. C'est-à-dire tu fais la checklist, pardon, de l'avion total avant de décoller, tu passes en mode simulation. Alors c'est encore mieux si tu as une manette, si tu as le casque, les pédaliers, le volant et tout installé sur ton ordinateur, et puis les multi-écrans, tu peux vraiment faire ça en mode super réaliste, et le moindre bouton, le moindre accident, la moindre météo est en temps réel. Tu peux même dire à l'ordinateur de gérer la météo dans un pays comme elle est. Il va se connecter aux bases de données météorologiques du pays en question en temps réel pour te mettre la vraie météo qui est actuellement. C'est assez puissant. Tu peux jouer en mode casual, simplement en te baladant au travers le monde et visiter le monde, ou vraiment en mode simulation. C'est assez puissant.
Mais ça existe depuis une bonne plus que 10 ans. Hein.
Une trentaine d'années.
Simulator, ça fait très longtemps. Ouais.
Et maintenant, il y a des gens qui sont équipés à tel point d'avoir 4 écrans
pour faire un
panoramique avec les manettes qui correspondent.
Exactement.
Et c'est toujours plaisant de faire des jeux à simulation comme ça qui évoluent, puisque on a quand même eu plusieurs versions. Mm-hmm. Et là, on a un photoréalisme assez impressionnant.
Oui, d'ailleurs, parce que si tu l'achètes en mode, tu peux l'acheter en version numérique. Elle est téléchargée normalement. Mais si tu l'installes, il t'envoie la boîte et tu as 10 DVD complets dedans.
Double couche. S'il vous plaît.
Alors, je pense que c'est là qu'on voit que certains supports ne font plus le poids. C'est un peu à l'époque quand on avait des disquettes pour lancer Photoshop, on en avait 35.
Le premier Flight Simulator devait tenir sur une pauvre disquette à l'origine. Mais bon, c'était des graphismes très simples, mais déjà complets. Et maintenant, les joueurs demandent plus. Oui.
Après, c'est pas forcément le jeu en lui-même. Le jeu en lui-même, le code fait pratiquement rien. Non. C'est tout ce qui est graphisme, exactement, tout ce qui est la modélisation des avions, comme tu disais, les connexions pour avoir les météos. elle va, tout ça pèse énormément lourd.
Est-ce qu'ils vont pas maintenant livrer les jeux directement avec un disque dur SSD? On rigole, mais pourquoi pas?
Non, ce que je suis en train de me demander, est-ce que ça coûterait moins cher d'acheter un jeu avec un disque dur SSD pour effacer le jeu pour avoir un disque dur après gratuit? Bah, après, pour info, j'ai retrouvé, c'est le studio bordelais Asobo. Merci. Qui était en charge de son développement.
Est-ce qu'il y a d'autres news que vous voulez évoquer avant la fin de cette émission? Je vois que on peut voyager, on peut faire aussi des expositions. Il y a une exposition Louis de Funès à la Cinémathèque française de Paris et qui propose, alors cette fois-ci, une aventure spécifique qui fait déjà sourire Rémy.
Quand on dit Louis de Funès,
c'est pas le... on pense... c'est pas l'exposition qu'il propose.
Oui, exactement. Parce que Louis de Funès, bien sûr, c'est le gendarme de Saint-Tropez. Et qu'est-ce qui se passe dans le gendarme de Saint-Tropez? Ils luttent. Leurs ennemis naturels, c'est les nudistes. Donc les nudistes et les gendarmes, ça ne fait pas bon déménage. Et les nudistes ont décidé de se venger. Donc ils organisent, comme il y a effectivement à Paris, il y a une exposition Louis de Funès, ils organisent le 13 septembre, c'est bien ça?
Ouais.
Une soirée spéciale où tu pourras visiter, réservée aux nudistes. Et ça, je trouve ça génial que les nudistes prennent leur revanche sur Louis de Funès comme ça.
Alors, c'est tout nu, mais avec un masque.
Après, il faut savoir où tu veux le placer. Mais
est-ce que
oui.
Ça n'a pas ruiné un peu le fonds
pas.
De commerce des nudistes?
Non, c'est pas le problème.
Allez, je vous propose de clôturer cette émission, puisqu'on a quand même une bonne musique pour terminer. On parlait voyage.
Dit voyage, forcément.
Et un artiste de reprise qu'on adule dans Heureusement en France, qui est passé plus d'une fois. Pour notre part, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Et d'ici là, écoutez, portez-vous bien.
À plus.
Radio Campus